autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation La tête dans les étoiles aujourd'hui pour nous demander pourquoi et surtout comment les hommes, en tout temps et en tout lieu, ont cherché dans le ciel des réponses à leurs interrogations. Notre invitée, l'astronome Yael Nazeh, a mené l'enquête. Elle s'est intéressée à toutes les astronomies du passé, celtiques, chinoises, arabes, indiennes, africaines, aborigènes ou mayas, de Stonehenge aux pyramides, en passant par les grottes de Dunhuang et l'île de Pâques. Yael Nazeh nous propose un voyage sidéral au cœur des savoirs astronomiques des anciens, autour de la question pourquoi s'inspirer des astronomies du passé. Bienvenue. Bonjour Yael Nazeh.
Bonjour.
Merci d'être venue depuis la Belgique, en cette période de grève en plus, pour être en direct avec nous. Vous êtes astronome à l'Institut d'astrophysique et de géophysique de l'Université de Liège. Vous êtes également une formidable passeuse de savoir et de sciences astronomiques, dans vos conférences comme dans vos livres. Les éditions Belin viennent de publier une nouvelle édition augmentée, avec les dernières recherches, les dernières découvertes, d'un ouvrage qui vous avait valu le prix Jean Rostand, et qui s'intitule « Astronomie du passé » au pluriel, sous-titré de Stonehenge aux pyramides mayas, un ouvrage fascinant, abondamment illustré, dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner, amis auditeurs, avis aux amateurs. Mais d'abord, pour quelles raisons, Yael Nazeh, vous êtes-vous intéressé à toutes ces astronomies du passé et pourquoi tenez-vous tant à nous les faire passer, justement ?
Bah, quelque part, parce que déjà l'histoire de l'astronomie m'intéresse beaucoup, mais... que quelque part aussi, finalement, on m'a toujours parlé des Grecs, et puis après, on faisait un grand saut, et on arrivait chez Galilée, Newton, etc. Et je trouvais que c'était un petit peu limité, que voilà, ça manquait un petit peu... Ouais, ça me gênait un petit peu aux entournures. Et donc, voilà, je me suis dit, il y a certainement plein de choses intéressantes un peu partout dans le monde, à d'autres époques, des façons de faire aussi différentes. C'est vrai que le côté grec et le côté renaissance, avec la révolution scientifique, ont modelé la science moderne. D'accord, certes, je ne le nie pas, mais je crois sincèrement qu'on peut aller au-delà quand on veut un peu savoir ce qu'on peut faire pour étudier le ciel, que de cette simple histoire qui nous relie à notre savoir actuel.
Parce qu'effectivement, les hommes, sous toutes les latitudes et à toutes les époques, ont levé les yeux vers le ciel et ont cherché des réponses à la question des origines et les ont trouvées parfois dans le ciel. Et le ciel servait aussi à naviguer, à faire calendrier. Enfin, c'était vraiment un savoir indispensable et obligatoire, finalement.
Oui, et puis aussi, quelque part, un divertissement. Il se passe plein de trucs dans le ciel. On n'avait pas Facebook, on n'avait pas la télé, fallait bien s'occuper.
Donc le soir, fallait bien, c'est ça.
Voilà. Et donc, quelque part, le ciel va pouvoir servir à énormément de choses. C'est vrai qu'il a une utilité bien pratique. En regardant le ciel, on peut faire un calendrier, on peut s'orienter pour voyager. Mais ça va aussi au-delà. On peut aussi, à certains moments, se dire que ces trucs qu'il y a là-haut, peut-être ce sont des dieux, peut-être ils ont des choses, on va faire des constellations, on va commencer à raconter des mythes, on va raconter énormément de choses autour du ciel, et tout ça fait partie de notre culture aussi.
Le ciel était occupé par les dieux quand même, et très occupé par les dieux.
Généralement, oui, pratiquement partout, il y a toujours des histoires assez particulières avec le monde d'en dessous et le monde d'au-dessus, forcément.
L'histoire, la cosmogonie, et puis il y a aussi véritablement un savoir astronomique qui existait bien avant qu'il n'apparaisse en Occident.
Oui, tout à fait. Il faut bien se rendre compte que le besoin d'avoir un calendrier, il est nécessaire partout. Alors on peut évidemment penser, lorsque les hommes se sont sédentarisés, pour l'agriculture, c'est clair qu'il faut savoir quand il faut planter, quand il faut récolter, mais ça va au-delà, parce qu'on a des tribus nomades qui ont besoin de savoir quand se déplacer, parce que c'est à tel moment de l'année qu'il y a telle nourriture qui est disponible à un endroit particulier. Donc eux vont avoir besoin du ciel pour pouvoir voyager et aussi se repérer quand même dans le temps, aussi avoir un calendrier. Donc il est clair que le Soleil et la Lune sont les deux premiers qui vont être utilisés pour ça. Le retour de certaines étoiles aussi va être utilisé partout dans le monde. Enfin, je veux dire, si on prend rien que les Pléiades, le retour des Pléiades, la première observation dans l'année des Pléiades, c'est un marqueur très fort vraiment partout. On retrouve ça en Polynésie, on retrouve ça en Afrique, on retrouve ça chez les Incas, on retrouve ça chez les Mayas, on retrouve ça vraiment partout.
Autour de la question pourquoi et comment nous inspirer justement de toutes ces astronomies du passé, je vous propose un éclairage, et elle n'a vu d'ailleurs, vu d'Afrique du Sud, c'est celui du cosmologiste Neil Turok. Il est fondateur du réseau AIMS, hein, d'institut d'excellence en sciences mathématiques sur tout le continent africain, et il tenait à rappeler lors du Next Einstein Forum, c'était à Kigali au Rwanda, il y a un mois, pourquoi et comment l'astronomie et les mathématiques n'étaient pas nées en Occident. On l'écoute.
So in particular, when we think of mathematics, we seldom think of Africa.
Au sujet des mathématiques, on oublie souvent que les trois inventions les plus anciennes dans le monde sont africaines.
In a cave in Swaziland, there was the Lobombo bone, which is marked with notches.
Au Swaziland, il y a l'os de Lobombo, marqué de 28 encoches qui décrivent probablement le cycle lunaire, vieux de 40 000 à 50 000 ans. Il y a l'os d'Ishongo au Congo, qui est un os de jambe de babouin, marqué de nombreux premiers en dessous de 20. On trouve plusieurs os. Si on les rassemble, on va au-delà de 60. Et si on retourne l'os, on trouve une nouvelle série qui dépasse les 60. Il est évident que quelqu'un avait donc élaboré un système complexe de comptage il y a environ 20 000 ans au Congo.
And then, of course, we have the oldest astronomical observatory in the world in Nabta Playa in southern Egypt, next to Sudan.
Et puis il y a bien sûr l'observatoire astronomique le plus vieux du monde à Nabta Playa au sud de l'Égypte, près de la frontière soudanaise. On y trouve un cercle avec une structure qui est clairement faite pour suivre le mouvement des étoiles. Elles sont alignées avec les étoiles et les planètes. Pour moi, il est très important de rappeler que l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité. Tous les êtres humains viennent d'Afrique, mais aussi de la pensée humaine. La pensée abstraite prend son origine en Afrique.
Réagir, Yael Nazé, à ces propos du cosmologiste Neil Turok, parce qu'on a quand même souvent tendance à oublier que le savoir scientifique, astronomique, mathématique est aussi né ailleurs, alors sur le continent africain dans son ensemble et ailleurs aussi dans le monde.
Mais quelque part, un peu comme il le disait, la question c'est la question de la pensée abstraite et de savoir finalement qu'est-ce qui nous rend humains. On n'est pas devenu humain quand on s'est installé en Grèce. On est devenu humain à un moment. C'est évidemment difficile de savoir exactement à l'année près quand. Mais qu'est-ce qui nous différencie des autres primates et des autres espèces animales? Finalement, on peut se dire, la science, l'art, et on en retrouve les traces évidemment dès le départ, parce que c'est ça qui nous caractérise finalement.
En tant qu'humain, c'est-à-dire qu'au fond, est-ce qu'on pourrait dire que dans les grottes préhistoriques, on retrouve peut-être une trace de quoi? D'une première astronomie possible? Est-ce qu'il y a des traces de ça?
Alors, évidemment, tout le problème des monuments anciens, c'est de savoir les interpréter et d'être sûr de l'interprétation. Alors, il y a beaucoup de choses plus ou moins certaines qui circulent. Ce qu'il y a, c'est que, par exemple, l'os d'Ishango qu'il a cité et d'autres, effectivement, on a des traces, en tout cas, il y a des comptages qui sont faits qui ont l'air d'être liés parfois à la Lune ou au Soleil. C'est tentant, mais on peut pas, évidemment, on ne sera jamais certain parce qu'on n'a pas le mode d'emploi à côté, quoi. Et pour les grottes préhistoriques, c'est un peu pareil parce que c'est vrai qu'à Lascaux, il y a une magnifique tête de taureau et que juste à côté, il y a un petit groupe de points qui ressemble vachement aux Pléiades et qu'on se dit quand même ça ressemble vachement aux taureaux et aux Pléiades.
Mais on n'en est pas absolument sûr.
On n'en sera jamais sûr. C'est peut-être tout à fait autre chose. Et donc là, c'est beaucoup plus difficile d'être certain. On peut évoquer la possibilité, mais aller plus loin, c'est s'avancer.
Est-ce qu'on pourrait dire quoi? Que les premières preuves d'observation astronomique, c'est quoi? Ce sont les pierres levées, les dolmens, ce genre de construction, Stonehenge?
Disons que là, au moins, on est un petit peu plus certain de ce qu'on fait. Alors, on n'a toujours pas le mode d'emploi, on ne connaît pas tout ce qu'ils faisaient, mais disons que ce qu'on peut remarquer, c'est que ces lignes de menhir, ces tons de passage, tous ces trucs mégalithiques montrent des orientations préférentielles vers le lever de soleil au solstice d'été, au solstice d'hiver, ou les couchers. Donc on a des indications qui montrent des choses préférentielles pour. C'est généralement assez localisé. Si on prend par exemple les tombes préhistoriques dans le sud de la France, suivant qu'on est à l'ouest ou à l'est de la France, hein, donc c'est assez rigolo que l'ouverture se fait vers l'est ou vers l'ouest justement au solstice d'hiver dans les deux cas, mais l'un vers le lever, l'autre vers le coucher. Donc c'est assez amusant. Donc ok, on sait que les hommes préhistoriques l'observaient suffisamment précisément pour pouvoir élaborer un monument qui soit dirigé vers ça. Maintenant, de là à parler d'observatoire au sens moderne du terme, évidemment, il faut quand même aussi rester un petit peu calme, je vais dire.
Je reconnais la scientifique que vous êtes là. Est-ce qu'on peut faire un petit détour du côté de l'Égypte? Parce que évidemment, quand on pense astronomie, on pense pyramide et on pense Égypte.
Ben forcément, on pense toujours à l'Égypte. Hein. C'est clair qu'il y a toujours aussi un petit peu d'égyptomanie qui nous reste. Alors au niveau de l'astronomie, malheureusement, c'est pas l'Égypte qui est le plus intéressant, malheureusement.
C'est qui serait le plus intéressant?
Moi, je dirais, c'est le Moyen-Orient. Hein. C'est la Mésopotamie qui est clairement extrêmement intéressante. Bon,
où l'on trouve quoi, par exemple?
Là, on trouve des premiers modèles, premiers modèles mathématiques où on va véritablement dire où sont, prédire où est la Lune, où est le Soleil, que va faire telle ou telle planète. Donc là, on a des trucs vachement plus intéressants. Maintenant, les Égyptiens vont faire des choses pratiques et symboliques. Donc, dans le côté symbolique, les vivants sont côté est du Nil, donc du côté du lever du soleil et des étoiles, et vont se coucher à l'opposé.
Les morts sont à l'ouest.
Les morts sont à l'ouest parce que c'est là où se couchent les étoiles. Et puis, on a des choses beaucoup plus pratiques, comme par exemple, pour orienter des temples ou des pyramides, on a sur les temples des bas-reliefs qui nous disent que le pharaon, en compagnie de la déesse des mathématiques et de l'astronomie, oriente grâce aux étoiles. Alors là aussi, on n'a pas tout le monde d'emploi, mais bon, on se doute bien, c'est relativement simple, entre guillemets, à faire. Donc voilà, on sait que pour orienter les trucs sur les points cardinaux, ils le faisaient avec les étoiles. C'est très bien, donc des savoirs très pratiques.
Et est-ce que c'est lié aux pyramides? Parce que je fais un saut terrifiant dans le temps et dans l'espace, mais vous parlez aussi beaucoup des pyramides mayas, qui, elles, étaient liées à l'observation du ciel.
Alors, pas les pyramides mayas elles-mêmes. Les mayas ont fait énormément d'astronomie. Ça, c'est évident. Chez eux aussi, on retrouve des modèles mathématiques pour prédire ce que Vénus va faire, quand est-ce qu'il y aura des éclipses, ce genre de choses. Ce qui est amusant, c'est que dans certaines pyramides, la plus connue, c'est celle de Chichen Itza, elle n'est pas maya, mais enfin, c'est un héritage quelque part de cette culture-là, on a des jeux de lumière. Tandis que dans les pyramides égyptiennes, c'est un petit peu différent. On a dans la Grande Pyramide ces fameux petits canaux à l'intérieur des pyramides qui sont symboliquement, nouveau, orientés vers le nord, pour les étoiles éternelles, hein, les étoiles qui ne se couchent jamais autour de la polaire. Mais ça reste symbolique, ce ne sont pas des canaux où on va observer à travers. Hein, c'est impossible.
On est dans une lecture symbolique
du ciel. Voilà, on est dans une lecture symbolique du ciel, tandis que chez les Mayas, on va vraiment aller vers des modèles mathématiques. Et c'est pas les pyramides qui vont être le plus important. On peut avoir chez eux, avec les pyramides aussi, de la symbolique. Par exemple, à Ouaxactoun, il y a des groupes de pyramides où vous mettez depuis la grande, et puis vous voyez le soleil se lever au solstice, soit au bout d'une des pyramides devant, ou au bout de l'autre. C'est un groupe de trois devant, quoi.
Hein, donc c'était extrêmement calculé.
Voilà, c'est calculé. Là, on voit bien l'idée de démonstration publique de la force du tyran local qui fait lever le soleil. Mais par contre, on a typiquement chez les Mayas aussi des codex et ce genre de choses qui montrent qu'ils avaient été beaucoup plus loin au niveau de la modélisation et de la réflexion.
Le fameux calendrier maya.
Et même au-delà, c'est pas juste le simple calendrier de savoir quel jour on est, c'est une remise en phase de tous les cycles du ciel, mais... Voilà, c'est pas seulement le soleil et la lune, on est vraiment dans une idée plus globalisante et vraiment avec des choses très intéressantes chez eux.
Autour de la question pourquoi et comment nous inspirer des astronomies du passé, Yaël Nazé, sous le ciel exactement, on propose une petite inspiration celtique sur RFI avec Lorena McKennitt, Beneath a Phrygian Sky.
The moonlight, it was dancing, the waves out on the sea. The stars of heaven hovered in a sheen galaxy. A voice from down the ages, so haunting in its song. These ancient stars will tell us our love must make us strong. It wrapped around me
Lorena McKennitt sur RFI, Beneath a Phrygian Sky, sous l'inspiration celtique, sous le ciel celtique, ça vous plaît, Yael Nazé?
Oui, moi j'aime bien la musique celtique, donc...
Autour de la question pourquoi s'inspirer des astronomies du passé, je propose maintenant de nous arrêter... dans un autre endroit du monde, en Asie, sur la plus ancienne carte céleste de toute l'histoire de l'astronomie, la carte céleste de Dun Huang, découverte dans un monastère bouddhiste en Chine et conservée à la British Library de Londres. L'astrophysicien Jean-Marc Bonnet-Bideau a mené l'enquête pour son film documentaire « La carte céleste de Dun Huang », on l'écoute.
Cette carte avait été répertoriée une fois, mais nous allons en faire une étude réelle de la position des étoiles et surtout de la façon dont elles ont été rapportées. Parce qu'il faut bien se rendre compte que faire une carte du ciel, c'est très compliqué. Parce qu'il faut projeter une sphère sur un plan. C'est donc une opération mathématique assez élaborée. Et puisqu'il faut effectivement respecter un certain nombre de règles. Et la grande surprise a été que quand on a étudié cette carte mathématiquement, puisque c'était ça l'intérêt de la chose, on s'est aperçu que la projection utilisée par les Chinois, et je dis tout de suite, la carte est datée du 7e siècle de notre ère, elle était équivalente à ce que nous appelons, nous, une projection de Mercator qui a été effectivement élaborée au 16e siècle. C'est-à-dire qu'elle reprend l'ensemble des constellations proches de l'horizon dans un rectangle, et puis toutes celles qui sont loin de l'horizon autour du pôle, qui seraient trop distordues dans la projection par un rectangle, sont représentées par un cercle. Si vous regardez les cartes, les planisphères modernes, c'est comme ça que c'est représenté.
Ce qui veut dire aussi que cette science astronomique chinoise, elle était très performante bien avant la science occidentale.
Bien sûr, elle l'était, et ça devrait être de notoriété publique. Malheureusement, je suis bien placé pour le savoir que ça n'est pas le cas, parce qu'évidemment, il y a une espèce de protection culturelle qu'on pourrait dire en Europe, de considérer que la science s'est développée en Europe et de faire abstraction de tout ce qui s'est fait dans le reste du monde. Donc elle a cette vertu, cette carte, de nous démontrer. C'est encore une fois un document authentique, ça n'est pas une copie. La propre de la datation, c'est qu'elle a été enfermée dans un monastère bouddhique qui avait été créé au 3e siècle et qui a été fermé en l'an 1000 à cause des invasions qui ont effectivement déferlé sur la Chine. Donc on savait déjà que c'était dans cet intervalle de temps. Puis après, on a passé beaucoup de temps à rechercher dans le corps du texte des références qui nous ont permis de dater ça très exactement en l'an 643 de notre ère.
Document extraordinaire, cette carte céleste de Dun Huang, Yael Nazé, qui montre à la fois la connaissance que les Chinois avaient du ciel, mais aussi leur propre interprétation et représentation du monde, hein, c'est ça?
Oui, bien sûr, les cartes chinoises sont d'une richesse extraordinaire et c'est vraiment extrêmement intéressant. Et en plus, ça permet aussi de voir l'influence qu'ils ont eue sur leurs voisins, parce que si on prend la Chine... elle a vraiment essaimé, je vais dire, sur ses voisins. On prend la Corée et le Japon et on retrouve vraiment les traces. Ils utilisent les mêmes façons de faire que leurs voisins. Le Japon a été au point de reprendre une carte qui n'avait pas été faite pour leur latitude, mais ils l'ont reprise telle qu'elle. Ils l'ont reproduite telle qu'elle, alors que ça ne s'adapte pas à leur ciel, quoi. C'est assez rigolo.
Est-ce qu'en Asie, ce savoir-là était très développé? Il y a l'Inde aussi.
Il y a l'Inde, mais la Chine reste un pôle extraordinaire. Aussi, ce qui est assez amusant à souligner chez eux, c'est la place de l'astronome. C'est pas juste un gars dans son coin qui fait sa petite recherche et qui, aller de temps en temps, on en parle, quoi. Non, là, c'est vraiment un ministère. Directement, l'astronome, c'est quelqu'un d'extrêmement prestigieux chez eux. C'est très rigolo de voir le statut très différent, mais qui permet du coup, qui donne des moyens, qui permet d'avoir des grands observatoires il y a plus de 2000 ans, quoi. Enfin, je veux dire, c'est autre chose, c'est une autre, vraiment une autre
échelle. Dimension.
C'est une autre dimension.
Alors, autre astronomie extraordinaire, c'est l'astronomie arabe, un peu plus connue celle-là.
Alors, elle est plus connue, je veux dire, des chercheurs, mais c'est vrai que dans le grand public, peut-être qu'elle l'est quand même moins. Des noms comme Al-Tusi, par exemple, restent malheureusement assez peu connus. Non, il y a énormément de choses extrêmement intéressantes, que ce soit au niveau des commentaires sur Aristote, où ils vont discuter d'Aristote, de Ptolémée, remettre en cause Ptolémée, se dire qu'il y a des problèmes, se dire oui, mais les modèles, il faudrait quand même qu'on les améliore. Ils vont faire des programmes d'observation pour améliorer ce que nous, on appelle les constantes, hein, donc pour avoir des modèles plus précis, et puis se poser des questions sur comment améliorer ces modèles-là. Alors, certes, ils ne vont pas passer au modèle type Copernic, hein, ou Aristarque, avec le cas classique, hein, le Soleil au centre et les planètes qui tournent autour, mais néanmoins, ils vont quand même faire d'énormes progrès, et beaucoup, Enfin, je veux dire, là, on a presque 1000 ans de recherche aussi. Et donc, ce n'est pas qu'ils ont juste pris les livres des Grecs, qui les ont mis au chaud et puis qui nous les ont refourgués 1000 ans plus tard. Il y a eu du travail entre les deux qui est intéressant aussi à refaire. Nos premières cartes célestes, bah, c'est forcément ce magnifique atlas arabe qui a diffusé, et c'est lui. C'est celui-là, d'Al-Soufi, qui a été vraiment le déclencheur des atlas célestes chez nous. Donc voilà, on n'est pas totalement, je vais dire, passé des Grecs à Galilée sans rien entre eux.
Ouais, y a vraiment une tradition partout. Est-ce que ces recherches, ces travaux, cette archéo-astronomie, est-ce que ça peut aujourd'hui inspirer des astronomes dans leurs travaux aujourd'hui, ou est-ce que ça nous renseigne plus sur ce que pensaient les hommes à cette époque-là et comment ils vivaient et comment ils voyaient le monde?
C'est un peu les deux. Je dirais que ça, forcément, ça a un intérêt en soi de les étudier pour justement essayer de comprendre comment d'autres personnes ont réagi face aux mêmes événements du ciel, aux mêmes choses dans le ciel. Ce qui, pour nous, philosophiquement, peut aussi être intéressant de voir comment aborder les choses de manière complètement différente.
Et qu'on peut les aborder de manière complètement différente.
Oui, déjà, c'est vrai, rien que ce fait-là, parfois, est déjà parfois un problème. Et puis, évidemment, il y a la question de l'utilité. Et c'est vrai que, par exemple, si on prend les tablettes mésopotamiennes ou les sources chinoises, elles ont été réutilisées dans des recherches actuelles, pour diverses raisons. Parce que, par exemple, les Chinois s'intéressaient beaucoup à ce qu'ils appelaient des étoiles invitées, qui étaient en fait des explosions de supernova.
Et donc, ils arrivaient à repérer...
Oui, on les voit à l'œil nu. Hein, sur des c'est vraiment une nouvelle étoile qui surgit, c'est ce qu'on peut voir, et puis dont l'éclat diminue petit à petit et qui disparaît. Donc, ils appelaient ça une invitée. On les connaît. On sait où elles sont. Les Chinois ont été très précis. Ils ont donné un peu leur évolution, où ça s'était positionné dans le ciel, etc. Et puis, on peut les voir aujourd'hui. Et donc, ça nous donne une base de temps extraordinaire, puisque nous, avec ce qu'on étudie aujourd'hui, on peut dire, bah, normalement, l'explosion a dû se passer de cette manière-là.
Et on peut aller rechercher dans les annales chinoises.
Donc, ce sont des cas où on peut montrer que les modèles ont raison ou ont tort. Autre cas, bah, c'est par exemple l'étude de la comète de Halley. On a pu retrouver chez les Chinois la trace de tous les passages depuis les 22 derniers passages, quelque chose comme ça. Enfin, c'est un nombre invraisemblable. On peut tester notre mécanique céleste très bien. On peut voir ce qui se passe, comment...
Oui, ça nous donne la longueur de temps.
Voilà, on a une longueur de temps et tous les phénomènes célestes ne se produisent pas en un quart de seconde. Donc, forcément, avoir une base de temps longue est intéressant. Et on a des observateurs qui ont été très précis.
J'ai envie de revenir un peu sur le continent africain, parce qu'il y a à la fois, vous le dites dans ce livre, notamment un calendrier absolument étonnant, et puis il y a aussi des choses que l'on croit et qui ne sont peut-être pas tout à fait sûres. Un de nos auditeurs, il s'appelle Abdoulaye Guissé, il nous demande si, alors lui il fait le parallèle entre les Mayas et les Africains, et les Dogons, mais on va revenir là-dessus, si les Mayas savaient que les étoiles Sirius A et Sirius B se rencontrent tous les 50 ans environ avec une orbite elliptique. Alors répondez à sa question.
Côté Maya, les choses, moi j'ai jamais lu de sources liées à ça, donc sincèrement je pense que non, autant que je puisse le savoir. On a beaucoup de problèmes pour identifier les étoiles connues par les Mayas, les constellations Mayas, c'est franchement pas évident, quoi. Tout ce qui est planète, ça va, on s'y retrouve, mais par contre pour les constellations c'est plus compliqué. Donc je ne pense pas qu'on ait de traces de ça chez les Mayas. Alors maintenant on parle beaucoup de cette idée de connaître Sirius A et Sirius B, le fait que Sirius était double chez les Dogons, mais bon, ça était démonté depuis. C'est un peu devenu une légende urbaine qui circule et qui continue à circuler malgré le fait que voilà, ça n'est pas vraiment réel. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que
ce sont les Dogons qui se sont joués, des ethnologues qui
voilà,
venaient leur...
c'est peut-être bêtement ça. Ils ont dit aux ethnologues un peu ce que les gars voulaient entendre. On sait que le principe de gémellité est très important pour eux, mais le fait qu'ils aient focalisé sur Sirius, bah, peut-être parce que justement les ethnologues en face ont réagi, parce qu'on venait justement de faire un peu la pub de la découverte de Sirius, et enfin voilà, donc ça circulait côté occidental, et les ethnologues ont réagi, peut-être plus réagi à ça, et du coup les autres en ont remis une couche, quoi. Bon, on ne sait pas très bien si c'est ça, ou si c'est les ethnologues qui ont un petit peu brodé gentiment autour.
Mais en revanche, sur le continent africain, il y a notamment, vous parlez dans ce du calendrier
Borana. Oui, le Karandiborana est manifestement lié aux étoiles et on a des monuments comme le Gris Zimbabwe aussi qui ont l'air de comporter effectivement des alignements stellaires. Le gros problème, c'est qu'on a, contrairement à d'autres continents, on a des traditions orales qui ne sont plus vraiment intactes, je vais dire. On n'a pas vraiment énormément de monuments, parce que si c'est des monuments en bois, ils dépérissent, et bon, voilà.
Il n'y a pas de traces pour les archéologues, il faut des traces en
voilà,
pierre.
C'est ça le problème, c'est qu'il faut des traces, il faut pouvoir faire beaucoup de choses, et on n'a pas toujours ça d'accessible partout, ce qui rend les choses difficiles.
Allez, on reste la tête dans les étoiles, avec Mélodie Gardot, sur RFI.
Les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi j'ai vos regards. Les étoiles, dites-moi étoiles, qui vous regardera. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi, étoiles, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi, étoiles, qui vous donnera l'amour?
Qu'est-ce qui fait l'être humain ? On devient un être humain quand on regarde les étoiles.
On regarde les étoiles, c'est le préhistorien Pascal Depape qui nous a dit ça. Ici dans ce studio, Yael Nazé, vous êtes d'accord avec cette réflexion? Ce sera peut-être le propre de l'humain que de regarder les étoiles.
Déjà, je trouve que c'est très joli. Sinon, oui, quelque part, je dirais les étoiles et la nature de manière générale, quand on commence à se poser des questions, à être curieux, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'art et la science, pour moi, sont un peu le propre de l'homme, donc oui.
Regarder les étoiles pourrait être le propre de l'homme. L'astrophysicien Roland Lehoucq vient nous rejoindre. Bonjour Roland.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous et nous avoir rejoint pour nous proposer d'envoyer un peu de notre humanité sur la Lune. C'est le projet Sanctuary dont on va... dont on va parler en fin d'émission. Mais d'abord, êtes-vous d'accord, vous aussi, avec cette proposition? Regarder les étoiles, se poser des questions astronomiques, ce serait peut-être le propre de l'homme?
Oui, ça, comme disait Yael très bien, ça incite à la question. C'est-à-dire, quand on voit le ciel noir qui a l'air grand, il y a des petits points brillants, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a la Lune aussi, quand même, qui est un objet céleste extrêmement fort.
Oui, oui.
Alors, on ne peut pas être autrement que stupéfait par ce spectacle. Et il y en a bien d'autres. Pensons à un arc-en-ciel, une tornade énorme, enfin Dieu sait quoi. Les manifestations de la nature en général, et singulièrement celle-ci, où il y a quand même le fait que le Soleil n'est plus là, et est-ce qu'il va revenir? Enfin, c'est pas acquis. Si vous n'avez pas bien compris la mécanique céleste, c'est un pari. Et donc, voilà, on peut comprendre les phénomènes naturels, astronomiques, comme les éclipses aussi, doivent être spectaculairement effrayant ou marquant. Donc voilà, donc l'astronomie certainement a marqué l'humanité, peut-être fait de nous des humains, j'en serais pas très sûr, mais en tout cas a marqué l'humanité. Et si le ciel de la Terre était différent, sans lune, plusieurs lunes, avec d'autres objets célestes très visibles, peut-être on penserait les choses différemment.
Là, je reconnais bien le grand amateur de science-fiction que vous êtes aussi, Roland Lehoucq. Autour de la question, pourquoi s'inspirer peut-être de la science-fiction, en tout cas des astronomies du passé, et pourquoi tous les hommes sur Terre ont et se sont interrogés en regardant le ciel, mais ont aussi navigué en suivant les étoiles. Je vous propose un nouvel éclairage, c'est celui d'un autre astrophysicien et poète, Michel Cassé, qui a peut-être un peu trop la tête dans les étoiles, mais qui s'est toujours nous entraîner vers d'autres cieux que les nôtres.
Je me suis intéressé à la cosmologie des aborigènes Et ceux-ci ont un avantage sur nous, ils savent désigner les extraterrestres. Les extraterrestres, pour eux, ce sont nous. Oui, puisque nous avons débarqué, ils nous ont pris. Non pas pour des anges, mais... ou alors pour des anges exterminateurs. Donc, ils ont beaucoup d'avance. Mais les aborigènes avaient aussi beaucoup d'avance, bon, c'est une plaisanterie, sur l'observation du ciel, puisque dans cette contrée, on naviguait beaucoup, et la seule manière de se repérer, on marchait beaucoup. Dans les déserts. Les océaniens ont une connaissance extraordinaire du ciel, en effet, pour la raison qu'ils naviguent. Donc la question est de savoir si nous avons cessé de naviguer.
Je ne vais pas vous demander si nous avons cessé de naviguer, Yael Nazé, rassurez-vous. Mais les aborigènes, eux, ils savaient naviguer en regardant le ciel. Et l'astronomie aborigène, ça fait vraiment partie d'une découverte très récente. Pour nous, hein, pas pour eux, mais pour nous.
Oui, pour nous, disons que justement, par rapport à la sortie du livre qui était au départ en 2009 et aujourd'hui, les choses ont énormément évolué au niveau de l'astronomie aborigène parce qu'il y a eu des programmes justement là-bas sur vraiment essayer d'étudier, de se rendre compte de ce qu'il y avait. On connaissait vraiment que des toutes petites bribes. Et maintenant, il y a vraiment eu un effort assez important qui a été mené, quelque part aussi pour, vu la situation là-bas, reconnaître aussi que
leur savoir.
Leur savoir et ce genre de choses. Donc bon, ça participe de plein de choses en Australie, mais bon...
Qu'est-ce qu'ils savaient? Qu'est-ce qu'ils...
Alors, les aborigènes, leur savoir astronomique dépend de l'endroit où ils sont. Forcément, ceux des côtes n'ont pas besoin de savoir la même chose que ceux qui sont dans le désert. Donc, le type de calendrier, par exemple, n'est pas exactement identique. Les événements qu'ils repèrent ne sont pas les mêmes. Les grandes migrations de poissons sont importantes à la côte et pas dans le désert. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a donc au niveau de l'étude des mythes, on se rend compte que par exemple, ils savaient qu'il y avait des météores, que ceux-là pouvaient creuser des cratères. Il semblerait aussi qu'ils aient repéré l'éruption des Tacarinés. Donc, c'est une étoile massive, enfin un couple d'étoiles massives, mais il y en a une des deux qui a fait une très grosse éruption au 19e siècle. Et on a. Alors là, c'est amusant parce que l'étude a été faite maintenant, mais c'est une source du 19e siècle. Donc, un gars qui, là-bas, a discuté avec les aborigènes quelques années plus tard. Et en fait, ils avaient intégré l'éruption des Tacarinés dans leurs histoires. Et donc, ils avaient une étoile qui était apparu tout d'un coup et il désignait sa place et on savait exactement où elle était. Donc c'est assez amusant de se rendre compte qu'effectivement ils ont aussi intégré les événements du ciel petit à petit. C'est probablement aussi la même chose avec les météores, même si on n'arrive pas à identifier quel météore à quel mythe, je vais dire, mais bon.
Donc il y avait vraiment une observation et une quantification de ce qui se passait dans le ciel.
Peut-être pas quantification, justement. Là, cet aspect-là est peut-être moins développé parce que ça les intéresse moins. Mais disons que l'ajout dans leurs histoires, ou au niveau symbolique, on a aussi maintenant certains, on va dire, on peut l'appeler des monuments aborigènes qu'on a... nous, découverts, entre guillemets, et qui montrent justement des orientations préférentielles, un peu comme nos mégalithes, liées au solstice ou liées à la position de la Voie lactée, à certains moments bien précis. Donc, on a vraiment des choses qui commencent à être connues. Donc, on montre que même là où on se pensait justement l'astronomie pas très développée, ou en tout cas, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, je vais dire, il y a 10 ans d'ici, maintenant, on se rend compte que, oui, il y a des choses. Alors maintenant, on n'est pas peut-être avec des modèles mathématiques comme chez les Mayas ou en Mésopotamie, mais ça n'en reste pas moins quelque chose d'extrêmement intéressant.
Finalement, on a l'impression, il y a une nasée, que partout où on cherche, et où peut y avoir des traces en pierre, on a dit que les traces en bois, il n'y en avait plus, mais que presque partout où on cherche, dès qu'il y a des hommes sur Terre, il y a des traces d'astronomie.
Oui, mais le ciel est partout aussi. Donc...
C'est vrai, c'est vrai.
Bon, c'est vrai qu'en Belgique, on ne le voit pas très souvent, je suis d'accord. Mais...
Justement, c'est vrai que c'est une question aussi qui se pose aujourd'hui. Alors, je ne parle pas seulement du climat, mais je parle aussi de notre pollution lumineuse. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, on regarde moins le ciel et on est moins...
On regarde moins le ciel, on est beaucoup moins sensibilisé et c'est vrai qu'on perd peut-être ce rapport-là. Alors, on a des artistes d'art contemporains qui essaient justement de nous faire retrouver ces sensations, de nous obliger à regarder le ciel. Bon, un bon exemple, c'est James Turrell avec ses Sky Space. J'y arriverai, Sky Space. Mais bon, donc il y a... Il y a quelques-uns qui essaient de nous dire, mais c'est important, essayer quand même de regarder. Les astronomes font pareil, on essaie aussi de les motiver à regarder le ciel. Mais c'est vrai qu'à part les artistes et les astronomes, finalement... Voilà.
On est moins nombreux aujourd'hui à regarder le ciel qu'hier. Yael Nasi, je vais vous laisser repartir sous le ciel de Belgique parce qu'il y a une grève des trains et que vous devez attraper un train pour la Belgique. Je rappelle à nos amis auditeurs que nous avons un exemplaire de votre ouvrage, ce fascinant Astronomie du passé aux éditions Belin, à vous faire gagner si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. Avis aux amateurs, bon retour Yael Nasi, vous revenez quand vous voulez nous parler d'astronomie d'hier, d'aujourd'hui ou de demain. Et nous, on va embarquer pour la Lune. Avec Férouz sur RFI.
نحن والقمر جيران بيته خلف تلال بيطلع من قبال يسمع الألحان نحن والقمر
qui chantait la Lune sur RFI, la Lune source d'inspiration astronomique, hier comme aujourd'hui et demain, n'est-ce pas Roland Lemouc, vous êtes astrophysicien au CEA et vous venez nous rejoindre pour nous parler de ce projet Sanctuary, l'éternité pour l'humanité. Il s'agira en fait en juillet 2019 pour les 50 ans d'Apollo d'envoyer un peu de notre humanité sur la Lune et on est tous concernés, amis auditeurs. Hein.
Oui c'est ça, c'est-à-dire alors juillet 2019, on fêtait les 50 ans de Apollo 11, le premier pas de l'homme sur la Lune. En fait, le module lunaire Alina qui atterrira sur la Lune atterrira en 2019 et probablement après le 50e anniversaire, la date anniversaire, peut-être à la fin de l'année. C'est toujours compliqué les lancements dans l'espace en général et vers la Lune en particulier. Et l'idée a été de proposer au groupe d'ingénieurs allemands qui ont conçu ce projet techniquement, les rovers, l'atterrisseur et puis les deux rovers, les deux petits rovers
qui vont descendre
sur la Lune et puis se balader un peu sur la Lune, eh bien, ça a été de leur proposer de mettre sur la Lune un petit objet qui pèse même pas un kilogramme, 700 grammes, et qui contiendrait, sur un support habilement choisi, des informations sur l'humanité d'ici et maintenant. Sans prétendre à l'exhaustivité évidemment, sans prétendre à l'encyclopédisme, des informations qui ont été choisies par un groupe d'humains, parmi les humains, à viser... d'héritage, à viser de messages, alors à qui ? C'est la question intéressante.
La question intéressante, c'est pas, peut-être pas pour des extraterrestres.
Alors, on peut imaginer ce qu'on veut. On pourrait d'abord imaginer des extraterrestres. Ça, c'est un premier choix. Ça, on se placerait dans la lignée des messages pionniers, sur les sondes pionnières
qu'on envoie dans l'espace.
Qui ont été deux sondes qui ont été envoyées dans les années 70, suivies par deux autres sondes, les ondes Voyager, qui ont été envoyées dans l'espace pour observer le système solaire profond, Jupiter, Saturne, et puis les planètes au-delà de Jupiter et Saturne, et qui ont porté à leur bord une plaque gravé avec des informations d'où vient cet objet, la sonde, qu'il envoie, deux humains, des informations astronomiques, des petites informations sur une plaque gravée, deux fois pour la sonde pionnière, et puis un golden record, comme on dit, un vidéodisque doré, qui n'est pas en or massif, mais qui était doré à l'or pour préserver l'information qui était gravée et qui était mise à bord des sondes Voyager. Et là, évidemment, qui peut s'intéresser à ça, si ce n'est l'hypothétique extraterrestre qui, avec une probabilité infinitésimale, croisera ces objets sur sa route.
Et arrivera à le lire.
Et arrivera à le lire. Tout ça est compliqué. Mais
alors que sur la Lune, là...
Ça sera différent. Ça pourrait être des extraterrestres dans un futur très lointain. Très lointain, pourquoi ? Parce que sur la Lune, pas d'érosion, quasiment... aucune possibilité, à part le rayonnement solaire, la lumière, les rayons ultraviolets du soleil qui peuvent éventuellement abîmer certains matériaux non adaptés. Mais sinon, une chose posée, l'empreinte de pas d'Armstrong sur la Lune, elle est là pour des centaines de milliers d'années. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'air, il n'y a rien. À part une chute de météorite pile dessus, il n'y a rien qui détruira
donc
cette empreinte.
Donc ça pourrait être pour d'autres humains qui...
Alors, des humains du futur qui reviendraient sur la Lune et qui découvriraient ça, qui feraient un peu ce qui est un des objectifs, en plus du démonstrateur technique de ce descendeur Alina, la démonstration technique de la capacité d'ingénieurs privés, finalement, d'un groupe privé de faire ce voyage à la Lune. C'est aussi une mission archéologique. Se poser dans la région Taurus Littro, la région de la dernière mission Apollo, où il y a évidemment encore les objets techniques qui ont été laissés sur la Lune. Il y a un module qui est reparti avec les astronautes, les deux astronautes à son bord, mais il y a tout un tas d'objets qui sont restés. Et donc d'aller avec les deux rovers, des caméras haute définition, aller mener l'investigation sur l'état du matériel, ça permet d'avoir des idées sur comment ça vieillit sur la Lune. Il y a un intérêt scientifique et archéologique pas complètement négligeable, dans la mesure où on peut espérer, ou on peut en tout cas imaginer, peut-être à l'échelle de 30, 40 ans, mettre une base sur la Lune et donc comprendre comment les matériaux dans l'environnement lunaire, pas d'air, pas de vent, mais le vide, le froid, la nuit qui dure 12 jours, le jour qui dure 12 jours, le soleil sans atmosphère, sans filtre, bref, ça vieillit différemment, ça subit différemment son
contexte. Atmosphère lunaire, et alors dans ces traces d'humanité qu'on pourrait laisser sur la Lune, vous faites appel à tout le monde finalement, on peut même envoyer des selfies, on peut envoyer des poèmes, des dessins.
L'idée, c'était de mettre, effectivement, sur Alina, de mettre quelque chose qui porte témoignage, ce sont des disques. Alors, l'idée, c'est de mettre quelque chose de pérenne, évidemment, dans le contexte lunaire, de quelque chose de pérenne, et quelque chose qui soit utilisable très directement. On n'a pas besoin d'un lecteur spécial. Le Golden Record de voyageurs, il faut un lecteur spécial. Là, le lecteur spécial, c'est vos yeux. Alors, vos yeux, éventuellement, avec une loupe, parce que ça va être gravé, même micro-lithographié, micro-gravé à la surface de disques de saphir, qui sont étudiés spécialement pour avoir des durées de vie considérables, des milliers, des dizaines de milliers d'années, qui résistent à, si vous le mettez dans les braises de votre feu de cheminée, il leur arrive rien, ils vont être noircis, mais ils ne fondent pas, ils ne sont pas détruits, ils ne sont pas modifiés, et de graver à leur surface des petits pixels noirs ou blancs, qui sont entre 40 et 50 fois plus fins qu'un cheveu, de graver de l'information lisible directement pourvu qu'on ait la bonne loupe, mais on peut graver des choses de grande taille, des choses de toute petite taille, et guider l'œil, faire comprendre à l'œil qui regardera ça, qu'il soit hypothétiquement extraterrestre, humain dans le futur, humain moderne, finalement, les seuls dont nous sommes sûrs qu'ils entendront parler du message chez nous d'ici et maintenant, ça c'est la seule certitude que l'on ait, et bien de réaliser qu'il y a quelque chose sur ce disque que l'on peut capter à l'œil, les parties les plus grosses, ce qui est écrit en gros, si j'ose dire, et puis guider l'œil vers des choses beaucoup plus fines, imperceptibles à l'œil, mais avec un outil très rudimentaire, une loupe. Ça peut être une simple goutte d'eau posée, une goutte d'huile posée à la surface.
Qui permettrait de lire. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez envoyer ? Par exemple, vous, Roland, qu'est-ce que vous mettriez ? Un selfie, je crois.
Alors, on n'a pas chacun. Alors, il y a les aspects information que le groupe. On est une équipe. Finalement, un groupe de 8 personnes qui avons réfléchi à ce qu'on pourrait mettre, ce qui, nous, comme humains, représentant des humains, mais n'étant pas porte-parole de qui que ce soit.
Non, mais ce sont des astrophysiciens.
Oui, mais ça ne nous qualifie pas beaucoup plus que beaucoup d'autres gens. Simplement, cette possibilité a émergé dans notre cerveau, on l'a proposé, elle a été acceptée, donc on s'occupe de le faire. Mais il y a aussi l'idée qu'il y aurait une contribution, c'est-à-dire on s'est pas auto-désigné porte-parole de l'humanité, évidemment, on n'est pas du tout représentatif.
Il y a une physicienne, un cosmologiste, un informaticien, un paléontologue et vous-même astrophysicien.
Exactement. Et donc plus un artiste, un graphiste et quelqu'un aussi qui est à la fois dans le graphisme et dans la vidéo, dans la représentation des idées par les images. Et donc ce groupe-là, disons artiste scientifique, eh bien va mettre des informations qui paraissent pertinentes, qui lui paraissent intéressantes et qui témoignent de l'humanité des gens qui ont fait ça. Mais ce n'est pas suffisant. Et donc, il y a une partie contributive où des gens pourront envoyer des informations qui leur paraissent, eux, intéressantes. Alors, ça peut être un selfie, ça c'est quelque chose qui montrera la variété de l'humanité. Ça peut être un dessin, on a des dessins d'enfants qui sont collectés et qui vont être intégrés dans les disques. On a aussi la possibilité d'avoir du pixel art, comme on dit, c'est-à-dire des dessins où on ne fait pas un trait, on dessine des points noirs et blancs, et sera attribué, des pixels seront attribués à qui voudra les prendre, des petits carrés de 50 pixels de 1,4 micromètre, donc quelque chose qui est totalement, qui est à peine plus gros, pas beaucoup plus gros qu'un point d'imprimerie à la fin, et on pourra éventuellement les assembler, plus une équipe de personnes pourra assembler ces pixels pour faire une image plus grande, et pour envoyer
tout ça sur la Lune.
Exactement.
Roland Lehoucq, bah oui, je propose d'écouter Fly Me to the Moon, Ben, l'oncle Saoul sur RFI, peut-être bientôt sur la Lune lui aussi, grâce à ce projet Sanctuary, pour envoyer vos dessins, vos photos, vos musiques, pour fêter les 50 ans d'Apollo. Le lien est sur notre page. Merci Roland Lehoucq, et on se quitte en compagnie de Ben, l'oncle Saoul. Fly Me to the Moon, ça
parfait,
vous va?
Parfait, Fly Me to the Moon, impeccable.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words,
avec Ben, l'oncle Saoul sur RFI, ou bien avec ce projet Sanctuary. Pour en savoir plus, c'est fascinant, le lien est sur notre page autour de la question. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster sur le site de RFI et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain pour nous intéresser à l'archéologie de l'esclavage. À quelques jours du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, nous ferons le point sur cette discipline en plein essor qui permet de revisiter cette tragédie à hauteur d'homme autour de la question comment refaire les routes de l'esclavage, avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation et Marjorie Bertin en coulisses. Portez-vous bien, restez curieux. Le prochain journal, c'est dans une petite minute sur RFI.